Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Romains 11, 33 à 36. Comment décrire la grandeur de Dieu? Comment comprendre celui qui est éternel, tout-puissant, omniscient et omniprésent? Le fait que Dieu connaît tout, qu'il est partout, qu'il est plus puissant que tout, et qu'il reste souverain sur tout ce qui se passe nous encourage grandement tous les jours. Nous qui connaissons Dieu, nous pouvons dire avec tout notre cœur « Allah Hua Akbar », c'est-à-dire « Dieu est plus grand ». Nous savons que Dieu est le plus grand. Il n'y a rien ni personne plus grand que lui. Les exemples de la grandeur de Dieu sont nombreux dans le monde. Nous pouvons voir la grandeur de sa puissance dans sa création et la grandeur de sa miséricorde dans la vie que Dieu nous accorde. La grandeur de sa justice se voit dans ses jugements, dans ce monde et dans la réalité de l'enfer. L'homme ne peut pas éviter la justice de Dieu. Soit ici, soit plus tard, ce que nous avons fait sera jugé selon la justice parfaite de Dieu. Mais où pouvons-nous découvrir la manifestation de son grand amour? Dieu est celui qui est le plus grand. Les autres perfections de Dieu sont démontrées dans ce monde. Alors comment a-t-il dévoilé son amour? Où pouvons-nous voir un amour qui ne contredit ni sa justice, ni sa sainteté, ni sa miséricorde? Abdou Murray a dit, « L'être le plus grand qui puisse exister, Dieu, a exprimé la plus grande éthique possible, l'amour, de la manière la plus grande possible, le sacrifice. » Que pensez-vous de l'idée de l'incarnation de Dieu? J'entends souvent dire que Dieu est trop grand pour devenir un homme. Mais il ne faut pas oublier ce que l'ange Gabriel a dit à Marie. « Car rien n'est impossible à Dieu. » Luc 1, 37. Nous, les êtres humains, nous sommes limités. Mais nous ne pouvons pas limiter Dieu. Surtout lorsque lui-même révèle cela dans les Écritures. Dans Jean 1, 14, nous voyons que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. C'est clair que la parole, dans ce verset, est Dieu. Un autre verset le confirme. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean 1, versets 1 et 2. Comment Dieu a-t-il été fait chair? En d'autres mots, comment se passe l'incarnation de Dieu? Dieu est un seul Dieu, mais en même temps, il existe en trois personnes. Je ne parle pas de trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais il existe de toute éternité dans sa nature comme Père, Fils et Saint-Esprit. À un moment donné, lors de son incarnation, Dieu a ajouté la nature humaine à sa nature. C'est un mystère. Mais c'est révélé dans les Saintes Écritures. Les événements autour de la naissance de Jésus sont des preuves que Jésus est l'incarnation de Dieu. Les Écritures parlent du Père et du Fils. C'est Dieu le Père qui a envoyé son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jean 3, 16 et 17. Que pensez-vous de la crucifixion de Jésus? Si Jésus était simplement un homme, sa crucifixion serait une histoire triste et terrible. Mais si Jésus est l'incarnation de Dieu, alors la crucifixion est l'événement le plus important qui n'ait jamais eu lieu dans ce monde. Rien ne peut se passer dans le monde sans la permission de Dieu. La crucifixion de Christ n'était pas seulement permise, elle était même ordonnée par Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 1, 18 à 20, « Vous savez en effet que ce n'est pas par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Il a été désigné d'avance avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Jésus-Christ pouvait-il satisfaire les exigences de la justice de Dieu et en même temps nous montrer sa miséricorde et son grand amour? Oui, c'est à la croix que nous pouvons voir la justice parfaite de Dieu jumelée à son grand amour. Voici l'explication de Jean, un disciple de Jésus-Christ. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 1 Jean 4, 10. Que veut dire victime expiatoire? Ce sont des mots associés avec les sacrifices exigés par Dieu dans l'Ancien Testament. Jean-Baptiste a compris le sens de ces mots lorsqu'il a pointé à Jésus en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Tout comme les sacrifices servaient de moyen pour couvrir le péché, de même le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix a servi de moyen pour payer le salaire du péché. Son sacrifice a non seulement couvert nos péchés, mais il les a ôtés. Voyez-vous l'amour de Dieu? Nous sommes des pécheurs qui ne méritent rien. Dieu est le Tout-Puissant qui n'a besoin de rien. Mais à cause de son amour, Dieu a pourvu au moyen de nous sauver en payant lui-même le salaire de notre péché. Regardez l'explication de l'apôtre Paul. « Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. » Romains 3, 23 à 26. Le mot « rédemption » indique le paiement nécessaire pour racheter quelqu'un qui avait une dette. Ce que Christ a donné pour nous sauver, c'est sa vie, son propre sang. Comprenez bien, Jésus-Christ, en tant qu'homme, a donné son sang comme un agneau parfait. En tant que Dieu, Jésus-Christ a donné sa vie parfaite pour nous. Dieu lui-même, payant notre dette en devenant un homme, en mourant sur la croix, en donnant sa vie pour nos péchés. Nous savons que son sacrifice a été accepté par le fait de sa résurrection. C'est là toute l'assurance de l'amour de Dieu pour nous. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains 5, 8 et 9. En pensant à cet amour, nous pouvons tirer une conclusion. Rien ne peut nous séparer de son amour, comme le confirme Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim? Ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, « À cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Et Romains 6, 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. » Ne limitez pas la grandeur de Dieu. Ce qu'il a fait pour nous dépasse notre compréhension. Mais c'est vrai. Ce que Dieu demande, c'est la repentance et la foi. Repentez-vous de vos péchés et recevez, par la foi, Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence, en effet, entre le Juif et le Grec. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10, 9 à 13. Doutez-vous que Dieu vous aime? Ne doutez plus. La preuve de son amour, c'est son sacrifice pour vous. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, 8. Et pour terminer, psaume 70, 5. Ils jubileront et se réjouiront en toi, tous ceux qui te cherchent. Ils rediront toujours, Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut.